L'heure pour vous de retrouver le journal de Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Soupçonnés d'avoir dissimulé plus de 13 millions d'euros d'avoir au fisc, les édiles de Levallois, Perret, Patrick et Isabelle Balkany sont jugés à partir d'aujourd'hui à Paris, notamment pour fraude fiscale et blanchiment.
L'Assemblée nationale engagera à partir de cet après-midi l'examen du très sensible projet de loi réformant la fonction publique, Thomas.
Mais le tout dans un climat social tendu, malgré certaines modifications arrachées au gouvernement par les syndicats qui craignent une privatisation rampante.
À chaque semaine, sa polémique autour de Monsanto et de son herbicide controversé, principe actif du Roundup.
Un rapport qui sera rendu jeudi au Sénat. Un groupe de sénateurs affirme que le glyphosate est moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge. Quatre navires de commerce saoudiens ont été visés par des opérations de sabotage à proximité des eaux territoriales des Émirats. Tôt ce matin, en l'occurrence, l'incident s'est produit à la sortie du détroit d'Ormuz, voie maritime vitale pour le commerce du pétrole. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes à l'occasion du début de la campagne officielle pour les européennes, Emmanuel Rivière, directeur de la division publique de l'Institut de sondage Kantar. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
L'écologie peut-elle être nationale? On en parlera avec notre invité, l'essayiste et homme politique Hervé Juvin. Il est candidat sur la liste RN, Rassemblement National, aux prochaines élections européennes. Il est aussi l'auteur de La Grande Séparation pour une écologie des civilisations, paru chez Gallimard. Il sera donc avec nous dans la deuxième partie de la grande table.
Merci et à tout à l'heure. Ensemble, ils ont traversé plus de 4 décennies de vie politique, formant un duo aussi redoutable que sulfureux. C'est à nouveau ensemble que le maire, les Républicains de Levallois-Perret, Patrick Balkany, et son épouse Isabelle doivent comparaître à partir d'aujourd'hui à Paris. Alors retracer tout à la fois la vie politique et affairiste tumultueuse des époux Balkany relève presque de l'impossible. Toujours est-il que leur démêlé judiciaire défraye si régulièrement la chronique qu'ils sont devenus au fil des ans quasi emblématiques des dérives de certains élus, des fêtes somptueuses sur la Côte d'Azur aux propriétés luxueuses en passant par les nombreux voyages. L'enquête qui a abouti au procès d'aujourd'hui donne un aperçu du train de vie fastueux qui caractérise le couple depuis les années 80. À cela, il faut encore ajouter les transformations de la ville, passée de banlieue industrielle en commune résidentielle aisée au prix d'investissements colossaux. Enfin, la vie du couple Balkany pose aussi la question de la responsabilité collective quand leur politique est dénoncée par ceux qui critiquent les endettements et une forme de clientélisme. Elle n'en reste pas moins plébiscité par d'autres. Dans le dernier numéro du magazine municipal, les élus de la majorité ont signé une tribune jurant fidélité et loyauté au maire, et sur les trottoirs méticuleusement balayés comme dans les squares florissants de cette commune cossue, le baron des Hauts-de-Seine reste toujours populaire auprès d'une partie des habitants. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors les édiles des Hauts-de-Seine sont notamment soupçonnés d'avoir dissimulé à l'administration fiscale un patrimoine d'au moins 13 millions d'euros, notamment parce que, sauf à ce que le tribunal correctionnel de Paris décide de joindre les deux dossiers, c'est bien un double procès qui attend le couple Balkany, Antoine.
Effectivement, deux dossiers, mais les mêmes prévenus vedettes, Patrick et Isabelle Balkany. Ils devraient être jugés dans un premier temps jusqu'à jeudi pour fraude fiscale au titre des impôts sur le revenu et la fortune pendant la période 2009-2015, à la suite d'une plainte du fisc. Ils encourent pour ces faits 5 ans de prison et une amende de 500 000 euros ou du double du produit de l'infraction. Et puis dans un deuxième temps, à partir de lundi prochain, on passera à l'autre affaire. Cette fois, Patrick Balkany doit être jugé pour corruption passive, blanchiment de fraude fiscale aggravée, prise illégale d'intérêt, et son épouse Isabelle Balkany pour blanchiment aggravé. Ils sont également poursuivis dans ce dossier pour une déclaration mensongère ou incomplète du patrimoine. Ces faits sont susceptibles de leur valoir une deuxième condamnation pouvant aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende, l'État demandant pour sa part dans ce volet 1 million d'euros d'indemnisation aux prévenus. Dans ce second volet, ils vont comparaître avec 4 autres prévenus, dont leur fils Alexandre, jugé pour blanchiment de fraude fiscale, et un homme d'affaires d'origine saoudienne, poursuivi pour corruption, Mohamed bin Issa Al-Jaber. L'enquête, qui a nécessité plus d'une vingtaine de commissions rogatoires internationales, a établi qu'ils auraient constitué frauduleusement et dissimulé un important patrimoine immobilier en recourant à des sociétés étrangères, notamment sur l'île de Saint-Martin et au Maroc. Elle a aussi établi qu'ils posséderaient des comptes bancaires non déclarés à l'étranger.
Et j'ajoute que la tenue du procès reste toutefois encore incertaine suite à la tentative de suicide d'Isabelle Balkany le 1er mai dernier, de sorte que l'audience pourrait être in extremis ajournée et reportée. Tombée de son piédestal, la CGT se retrouve à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain en congrès pour réélire Philippe Martinez, seul candidat à sa succession. En réalité, l'essentiel des débats devrait porter sur la ligne à adopter, car depuis le précédent congrès, c'était en 2016, la donne a changé. La CGT est désormais deuxième syndicat derrière la CFDT. Les relations avec Emmanuel Macron sont aujourd'hui glaciales. Les divisions syndicales ont par ailleurs repris le dessus. Enfin, et même si le mouvement a pu sembler s'essouffler samedi dernier avec un acte 26 marqué par une faible mobilisation, l'avènement des Gilets jaunes devrait là aussi obliger la CGT à se renouveler. Alors dans ce climat social particulier, pas plus tard que la semaine dernière, rappelons que les syndicats ont tout de même réussi à faire front commun pour critiquer le passage en force du gouvernement s'agissant de la réforme de la fonction publique, et nul doute que le souvenir de cette journée de mobilisation planera aujourd'hui au-dessus de l'Assemblée nationale au moment où doit débuter l'examen du projet de loi. Bastien Roch, bonjour.
Bonjour.
Alors ce texte de 36 articles prévoit notamment un recours accru aux contractuels, mais aussi de mieux accompagner la mobilité des agents dont les postes seraient supprimés pendant le quinquennat. La gauche, à l'unisson des syndicats, reproche notamment au gouvernement de vouloir affaiblir le statut des fonctionnaires. Bref, Bastien, les débats à l'Assemblée s'annoncent particulièrement houleux.
Oui, déjà plus de 1000 amendements au menu. Au cœur des débats, cette volonté du gouvernement d'embaucher plus facilement des contractuels. Ce sont des agents recrutés en contrat court, souvent pour pallier aux absences de titulaires. Ils sont aujourd'hui plus d'un million en France. On y trouve notamment des candidats à la fonction publique, comme par exemple des étudiants qui se destineraient à l'enseignement. La majorité veut donc élargir les types de missions pour lesquelles ces contractuels sont recrutés. Elle veut aussi créer un nouveau contrat. Le contrat de projet, c'est son nom, s'inspire des contrats comme on en trouve déjà dans le privé. Il est prévu pour durer entre 1 et 6 ans et ne déboucherait pas sur une embauche en CDI ni sur une titularisation. Et puis le gouvernement veut aussi encourager la mobilité de ses agents, une mobilité géographique mais aussi professionnelle. Le texte examiné ces deux prochaines semaines doit permettre aux fonctionnaires de rejoindre plus facilement des entreprises privées. Il prévoit aussi d'instaurer des ruptures conventionnelles comme celles prévues dans le Code du travail. Mais vous l'avez dit, les adversaires de cette réforme y sont nombreux et pas seulement à l'Assemblée. Les syndicats de la fonction publique craignent à l'unanimité que leur métier ne devienne de plus en plus précaire et qu'à terme ce soit leur statut de fonctionnaire qui soit un jour menacé. Ils accusent aussi le gouvernement de vouloir passer en force en ayant à nouveau recours aux ordonnances. Alors en face, le gouvernement essaye de donner des gages en proposant notamment une prime de précarité pour les CDD de un an ou moins. Des promesses qui pour l'instant peinent à convaincre en dehors de la majorité.
Merci Bastien Roch, et je précise que le vote solennel du projet de loi est prévu le 28 mai. Engagé dans une politique de réduction des coûts, le nouveau directeur général d'Air France KLM devrait annoncer aujourd'hui un plan de départ volontaire. Au total, 465 des 3200 postes du réseau intérieur sont visés. Était-il fiché par la firme pétrochimique Monsanto à l'origine de l'herbicide le plus controversé au monde, à en croire le rapport qu'il s'apprête à rendre jeudi prochain au Sénat et qui les place d'ores et déjà parmi les plus fervents défenseurs du glyphosate, principe actif du fameux Roundup? C'est peu de dire qu'il y a lieu d'en douter. Parmi ce groupe de 4 parlementaires appelés à rendre leurs conclusions sur la nature cancérogène du glyphosate, Pierre Medviel, élu UDI de Haute-Garonne et pharmacien de profession, est catégorique. Aucune étude scientifique ne prouve formellement sa cancérogénésité, et ni en France ni dans le monde, dit-il. Ce produit est d'ailleurs moins cancérogène que la charcuterie, affirme encore le sénateur. Autant dire qu'il n'en fallait pas davantage pour allumer la controverse. Véronique Roverotte, bonjour.
Bonjour.
Alors la question de savoir si le glyphosate est nocif ou non pour la santé agit depuis de nombreuses années le monde, à la fois politique et scientifique, en particulier parce que les différentes études menées à travers le monde donnent des résultats différents. Du coup, chacun des deux camps s'en sert pour justifier son avis, le tout dans un contexte de lobbying accru de la firme Monsanto.
Oui, dans l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est cette petite phrase, le glyphosate moins cancérogène que la charcuterie ou la viande rouge, qui alimente la polémique, sans même que l'on connaisse l'intégralité du rapport. Il sera rendu public dans 3 jours. Et bien cette petite phrase agite les opposants au glyphosate, car elle reprend un des arguments clés de la communication de Monsanto, le vocabulaire mot pour mot utilisé par la multinationale du pur Monsanto dans le texte. Quand on connaît certaines méthodes pas très orthodoxes utilisées par la firme pour défendre le glyphosate, cela peut effectivement intriguer. On sait que Monsanto a été notamment adepte du ghostwriting, une pratique qui consiste à faire signer des articles par des scientifiques réputés indépendants, alors qu'ils auraient été en fait rédigés ces articles ou relus par la firme. Tout à son avantage, bien sûr. Alors pour le député européen Europe Écologie Les Verts, José Bové, on est dans de la pure propagande.
Les arguments qui sont repris comme quoi le glyphosate est moins dangereux que la consommation de viande rouge ou de charcuterie. C'est quelque chose qu'on entend dans la bouche de Monsanto, sorti régulièrement pour essayer de discréditer tous les rapports scientifiques. Donc je dirais qu'on est dans de la propagande.
François Veillerette de Génération Future craint qu'il y ait encore plus d'absurdité dans le rapport glyphosate, donc rendu public jeudi prochain au Sénat.
Merci Véronique Robérotte. Direction le Sénégal, à présent plus exactement à Tiaroye, en banlieue de Dakar, où là-bas, une ancienne usine de pesticides, justement, suscite la polémique. L'établissement a fermé ses portes, c'était en 2016. Sauf qu'un collectif de riverains dénonce depuis quelque temps le stockage illégal de près de 500 tonnes de déchets toxiques dans la cour de cette usine, en théorie désaffectée. Selon le ministre de l'Environnement lui-même, venu sur les lieux la semaine dernière, les conditions de stockage seraient préoccupantes. C'est un reportage signé de notre correspondant William Delesseux.
Une odeur âcre se dégage des entrepôts désaffectés de la Senchim. Makumba Faye vit juste à côté de l'usine.
Une odeur nauséabonde qui fait vraiment mal de respirer et ça pique les yeux. Ça nous fait tousser, nous tous. Même à l'intérieur de mes narines, et ça grince.
Pour apercevoir la cour de l'ancienne usine de pesticides, il faut aller sur les terrasses des habitants. Des centaines de fûts sont entassés pêle-mêle, souvent ouverts, parfois fermés. Taïboufal fait partie du collectif des riverains.
C'est des déchets toxiques qui sont très dangereux pour la santé. Et il y a des risques d'explosion, des risques sanitaires graves et des risques mortels.
Vidéo à l'appui, le président du collectif, Moussa Badji, affirme que les activités de l'usine n'ont en réalité jamais cessé.
On a constaté ces temps-ci des camions qui entrent et qui sortent, qu'on charge l'engrais dans des sacs. Et ça, nous le déplorons. Ils devraient arrêter toute activité, ce que veut dire la commercialisation, le conditionnement, les stockages et la production.
Contacté, le directeur des industries chimiques du Sénégal, Alassane Diallo, assure que les fûts sont entreposés dans des conditions qui réduisent au maximum les risques. Mais en continuant de stocker des déchets, l'entreprise est dans l'illégalité. Un arrêté ministériel de 2016 impose même une dépollution totale du site.
Et je précise qu'aucune date pour l'enlèvement des déchets n'a été avancée jusqu'à présent par la direction. Quand la stratégie du chaos adoptée par les ennemis du vivre ensemble vise à faire éclater aujourd'hui le Burkina Faso, littéralement le pays des hommes intègres. Hier, 6 personnes, dont un prêtre, ont été tuées pendant la messe dominicale dans une église catholique dans le nord du pays. 15 jours plus tôt, des individus armés avaient tué un pasteur et 5 fidèles dans un temple protestant. Cette fois-ci, voilà 4 ans maintenant que le Burkina est ainsi l'objet d'attaques de plus en plus fréquentes, ciblant régulièrement des responsables religieux et attribués à des groupes djihadistes. Toutes ces attaques procèdent de cette volonté de mettre à mal cet atout majeur dont le pays s'est toujours vanté, la coexistence pacifique entre toutes les communautés religieuses. Même si l'expression fait référence à celle de poudrière des Balkans, présentée comme une des causes de la Première Guerre mondiale, et quand bien même le scénario d'une nouvelle guerre mondiale est encore à écarter, comment ne pas entrevoir à son tour aujourd'hui le Moyen-Orient comme une nouvelle poudrière susceptible d'exploser à chaque instant. Pour preuve, encore ce matin, plusieurs pétroliers saoudiens ont été la cible de mystérieux actes de sabotage au large des Émirats. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors, on ne connaît toujours pas les auteurs de ces actes de sabotage. Toujours est-il que peu de régions au monde donc représentent actuellement autant d'enjeux géostratégiques et suscitent par ailleurs autant d'ingérences. En l'occurrence, on parle là du détroit d'Ormuz, par où transitent la plupart des exportations de pétrole du Golfe. Un détroit que l'Iran a menacé de fermer à plusieurs reprises en cas de confrontation militaire avec les États-Unis.
Oui, le détroit d'Ormuz, à proximité duquel ces sabotages sont signalés, est l'une des régions du monde les plus surveillées entre l'Iran et le sultanat d'Oman. Ce point de passage obligé des pétroliers qui alimente une grande partie du marché mondial est synonyme de conflit potentiel. Depuis des semaines, Téhéran laisse planer la menace d'une fermeture du détroit d'Ormuz et fait figure de suspect idéal aux yeux des États-Unis et de leurs alliés du Golfe, même si aucune accusation n'a été formulée jusqu'à présent. De son côté, le ministère iranien des Affaires étrangères demande l'ouverture d'une enquête. Il parle d'incidents préoccupants tout en mettant en garde contre l'aventurisme d'acteurs étrangers. Washington a multiplié ces derniers jours les signes de détermination à l'encontre de l'Iran. Vendredi, le Pentagone a annoncé l'envoi dans la région d'un navire de guerre transportant des engins amphibies et une batterie de missiles Patriot, du matériel qui s'ajoute aux B-52 déjà positionnés à proximité. La veille, le commandant des forces navales américaines au Moyen-Orient n'avait pas exclu l'envoi d'un porte-avions dans le détroit d'Ormuz. Des signaux qui répondent aux menaces de l'Iran et participent à l'escalade entre les deux pays. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a décidé de se rendre aujourd'hui à Bruxelles pour parler avec les Européens de questions urgentes et notamment de l'Iran. En toile de fond de cette nouvelle montée de tensions, la suspension de plusieurs engagements iraniens liés à l'accord sur le nucléaire dénoncé par les États-Unis. La semaine dernière, Téhéran a lancé un ultimatum aux Européens exigeant qu'ils sortent l'Iran de son isolement bancaire et pétrolier, ultimatum rejeté par Bruxelles.
Merci Bertrand Galichet. Tandis que le chef de la diplomatie américaine, vous le disiez, est à Bruxelles, Donald Trump lui accueille pour sa part aujourd'hui à la Maison Blanche le Premier ministre hongrois Viktor Orban, l'un de ses rares admirateurs revendiqués en Europe, lors d'une visite qui suscite déjà de vives critiques à Washington, tant le dirigeant national conservateur est accusé de saper la démocratie dans son pays. Toujours aux États-Unis, Donald Trump a défendu hier sa politique de taxes douanières punitives contre la Chine, et ce après les déclarations pour le moins ambiguës de son principal conseiller économique, lequel, et contrairement à ce qu'affirme inlassablement le chef de la Maison Blanche, a reconnu que l'augmentation des droits de douane sur les importations chinoises pourrait porter préjudice aux entreprises ainsi qu'aux consommateurs américains. Les Philippins ont commencé à voter pour des élections de mi-mandat qui devraient a priori donner les coups des franchos au président Rodrigo Duterte, même si celui-ci a été la cible de nombreuses critiques des capitales occidentales, notamment en raison de sa politique violente de lutte contre le trafic de drogue et de tirades parfois ordurières. Il conserve toutefois une très forte popularité dans l'archipel, une partie des Philippins continuant de le voir comme un recours crédible face à l'inefficacité prêtée aux élites politiques traditionnelles. La justice suédoise a annoncé aujourd'hui la réouverture de l'enquête pour viol contre le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, espérant le voir comparaître devant un tribunal avant la prescription du crime en 2020. L'annonce du parquet de Stockholm relance un feuilleton judiciaire qui dure depuis près d'une décennie, pendant laquelle Julian Assange et ses soutiens n'auront eu de cesse de dénoncer une manœuvre destinée à le faire extrader vers les États-Unis pour y répondre des fuites de documents secrets américains par Wikileaks. Plus que 15 jours avant les élections européennes, un scrutin qui, il faut bien le reconnaître, ne semble pas jusqu'à présent passionner les foules, à la différence des candidats extrêmement nombreux, eux, à vouloir s'agiter. C'est le cas en particulier en France, avec 34 listes, un record. Et puis, cette forme d'engouement se vérifie également en Allemagne. Là-bas, ce ne sont pas 34, mais 41 listes qui seront en liste du jamais vu en Allemagne. C'est une correspondance à Berlin signée Ludovic Piétenu.
Beaucoup de petits partis tentent leur chance, ils n'ont pas vraiment de programme européen, certains ne s'intéressent qu'à un seul thème, la santé ou les animaux. La particularité en Allemagne, c'est qu'il n'y a pas de seuil pour être élu, même avec moins d'1% des voix, ils peuvent espérer remporter au moins un siège. Comme ce fut le cas il y a 5 ans pour un parti néo-nazi, ou Die Partei, ce parti satirique aux propositions loufoques, comme celle d'exiger un maximum vital d'1 million d'euros pour chacun. Mais ce sera la dernière fois. L'an dernier, l'Europe a demandé au pays de fixer un seuil d'élection entre 2 et 5% des voix. D'ici aux prochaines élections de 2024, l'Allemagne devra donc faire un choix. En attendant, il y a profusion, au moins 3 formations ultranationalistes qui témoignent de l'audience inédite depuis la Seconde Guerre mondiale de l'extrême droite allemande, ou bien 5 listes écologistes qui ont aussi senti le vent favorable au vert.
Et toujours à l'occasion du début donc de la campagne officielle pour les européennes, invité de la rédaction aujourd'hui, Emmanuel Rivière, directeur de la division publique de l'Institut de sondage Kantar. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Nous évoquions à l'instant la multiplication record de cette offre de liste en Allemagne, c'est également le cas chez nous. En l'occurrence, est-ce selon vous de nature à perturber le duel annoncé entre le camp présidentiel d'un côté et puis le Rassemblement national de l'autre ?
Je pense que c'est surtout de nature à perturber les électeurs qui vont avoir un peu plus de mal à s'y retrouver, parce que ce qui a été dit de l'Allemagne est vrai aussi pour la France. Il y a un certain nombre de ces listes qui se sont présentées dont l'objet n'est pas européen du tout. Il y en a certaines pour lesquelles l'objet est européen mais qui existent assez peu dans le paysage politique. Si j'en cite une, je risque de devoir en citer beaucoup. Je vais citer quand même la liste Esperanto. Là, pour le coup, on peut se dire que c'est leur objet, mais est-ce qu'ils ont une chance de porter dans une France où le seuil est fixé à 5%, c'est pas comme en Allemagne, des candidats à l'élection européenne. Et le problème de cette confusion est qu'il y a en fait une confusion sur la question posée aux électeurs. Est-ce que c'est je suis pour ou contre la politique menée par Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est la question, c'est je suis pour ou contre la poursuite de l'intégration européenne ? Ou bien est-ce que on me demande de choisir différentes orientations des futures politiques de l'Union européenne ? Et quand on regarde la campagne en France, on est un peu sur les deux premières questions, pour ou contre l'Europe, pour ou contre Macron, même si la question associée, c'est quels sont les partis politiques que je préfère. Mais il se trouve qu'on est dans un contexte où précisément la question du concours de beauté entre les partis politiques est une question qui intéresse de moins en moins les Français. Et donc la troisième question, celle des politiques européennes, risque de passer un peu en dessous du radar. Or, c'est bien ça qui va se décider avec la nouvelle composition du Parlement européen qui va se configuré, pas le 26 mai au soir, hein, il y aura beaucoup de tractations, mais dans les semaines qui suivront, c'est quelles sont les majorités de projets qui pourront se constituer, parce que c'est comme ça que ça se passe là-bas, hein, c'est pas binaire pour contre, c'est des majorités qui peuvent se constituer. Et là, oui, il y a une dilution en fait de l'enjeu. Alors les gens y mettent un peu de tout d'ailleurs, mais quand il y a un vrai détournement entre l'objet réel d'une élection, ce dont elle va effectivement décider, et ce qui pourra ou pas se traduire par des conséquences concrètes pour les gens, et la manière dont la campagne est couverte, scénarisée, mise en scène par les partis politiques au premier chef, faut pas s'étonner qu'il y ait des gens un peu perdus.
Question de Stéphane Robert.
Un exemple de ce que vous disiez ce matin avec, dans Le Parisien, le journal Le Parisien, Madame Aubry, qui candidate la France Insoumise, qui dit, pour convaincre les électeurs d'aller voter, il ne faut pas laisser Macron remporter ce scrutin. Pourquoi ? Est-ce que ce sont ce type de questions dont s'emparent les candidats plutôt que les enjeux européens et les thématiques européennes ? Pourquoi est-ce que les thématiques européennes n'arrivent pas à émerger ?
Parce qu'on s'imagine que c'est sans doute l'enjeu le plus immédiatement palpable, le plus familier à des électeurs dont, par ailleurs, il faut bien reconnaître qu'ils ne connaissent pas très bien le Parlement européen. Lorsqu'on pose la question, d'ailleurs, la moitié des Français ne savent pas qu'on élit les députés européens au suffrage universel. Vous voyez la distance qui reste à parcourir. C'est vrai que là, il y a un paradoxe intéressant entre le sentiment qu'il y a des enjeux européens, qu'un certain nombre de sujets majeurs ne peuvent être portés que sur la scène européenne. Dans votre journal, on a évoqué le glyphosate, on a évoqué les tensions majeures au Moyen-Orient. De plus en plus de gens nous disent « c'est pas nous tout seuls en France qui allons pouvoir prendre les décisions nécessaires, peser du poids qu'il faut sur la scène internationale par rapport à tout cela ». Mais effectivement, derrière, il y a une réalité qui est que les gens ont besoin, pour pouvoir être embarqués dans un scrutin, se dire, ben voilà, je vais voter ça, puis derrière, il y aura telle ou telle conséquence. Et cette familiarité avec ce qui se passe au Parlement européen, elle manque un peu. À la décharge des électeurs et de tous ceux qui essayent d'ailleurs de les informer, c'est vrai que c'est une culture politique tellement différente de la nôtre. Je l'évoquais, on est plutôt dans la culture du compromis, dans la recherche de majorité, entre d'ailleurs deux partis, de groupes politiques, le Parti populaire européen, qui est en gros le parti où on vocation à siéger les députés républicains, les sociaux-démocrates où siégeaient ont vocation à siéger les députés socialistes, qui rassemblent une majorité à l'heure actuelle. Et la manière dont ils fonctionnent n'a tellement peu à voir avec la manière dont fonctionne notre Parlement, on est dans du binaire, que voilà, c'est plus difficile peut-être à expliquer que dans d'autres démocraties parlementaires.
Pourquoi est-ce qu'on a ce duel ? Parce que vous, Kantar, comme les autres instituts de sondage, mesurez le fait qu'on a un duel qui s'annonce entre La République En Marche et le Rassemblement National, aux alentours de 22-23% d'intention de vote jusqu'ici, et les autres formations bien entrées. Pourquoi est-ce que ce duel s'est imposé et est-ce qu'on rejoue là la présidentielle ?
Alors, un petit peu, et parce que précisément sur les deux premières questions implicites de l'élection que j'évoquais tout à l'heure, est-ce que je suis d'accord avec la politique menée actuellement et quel est ma positionnement sur l'Europe, ils sont assez clairs en fait. Macron l'européen, Marine Le Pen l'eurosceptique, et c'est vrai qu'aujourd'hui l'articulation de l'un et de l'autre, et ils en sont emparés du scrutin de cette manière-là d'ailleurs, l'un va dire les progressistes contre les nationalistes, une autre va dire les patriotes contre les mondialistes. Enfin, c'est un peu le même clivage qu'il contribue à dessiner. Et les autres partis ont plus de mal à exister, soit parce que leur positionnement sur l'Europe n'est pas si clair que cela, soit parce qu'ils ont du mal à imposer cet autre enjeu qui est que va faire le Parlement européen. Alors qu'il y aurait quelque chose de très porteur, par exemple pour les Verts, quand on voit l'importance accrue de la question climatique et l'enjeu climatique pour l'ensemble des citoyens européens, d'ailleurs pas que les Français.
On a des intentions de vote qui, dans ce que vous mesurez, vous et les autres instituts de sondage, ne bougent pas, ou pratiquement pas.
Ce qui est un bon indicateur d'ailleurs.
Comment ça se fait? Est-ce que ça peut bouger dans les derniers jours? Parce qu'on a, on est maintenant à 15 jours de l'échéance.
Ouais, en gros, il y a deux scénarios. Soit ça peut bouger dans les tout derniers jours, comme ça s'est produit en 2009, avec un petit chassé-croisé entre les Verts et le Modem. Soit ça peut d'ailleurs ne pas bouger. Mais ça montre qu'effectivement, il n'y a pas un investissement dans la campagne, notamment dans sa dimension incarnée émotionnelle, que l'on a pour une élection présidentielle. L'élection présidentielle qui est en train de devenir la seule élection qui compte, à part l'élection municipale dans nos systèmes politiques, c'est un peu fâcheux.
Merci Emmanuel Rivière, directeur, je le rappelle, de la division politique publique de l'Institut de sondage Kantar d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Stéphane Robert. On termine avec un mot rapide de météo. Un temps calme et ensoleillé cet après-midi. Les températures, elles seront généralement comprises entre 13 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Demergue et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.